Bonjour. Alors notre texte biblique d'aujourd'hui, ça va être 2 Corinthiens 9, les versets 5 à 13. Mais tout d'abord, un petit mot d'introduction. Nous sommes au 1er siècle, peu après l'an 50. L'apôtre Paul a reçu de Jésus la mission d'évangéliser. Et de fait, il a déjà fondé bien des églises. Mais il s'est donné aussi un autre objectif. Il demande aux gens aisés des églises qu'il a fondées de soutenir financièrement les églises qui sont en difficulté. Et en l'occurrence, ici, dans 2 Corinthiens 9, il s'agit d'un soutien pour l'église de Macédoine. Alors, Corinthe, c'est tout au sud de la Grèce, puis la Macédoine, c'est un petit peu plus au nord. Alors, pour le moment, les chrétiens de Corinthe, ils ont déjà promis leur soutien à Paul, mais dans leur église, ils n'ont pas encore fait la collecte. Et au début de ce chapitre, juste avant notre texte, Paul a annoncé aux Corinthiens qu'il va venir les voir pour prendre la collecte et la rapporter en Macédoine. Alors voilà où nous en sommes. Maintenant, voici ce que Paul dit au verset 5. Je vous lis le verset 5. J'ai donc estimé nécessaire d'exhorter les frères à me devancer chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un acte d'avarice. Alors le premier terme que j'aimerais souligner ici, c'est libéralité. Dans la langue originale, en grec, ce mot signifie un acte de bienveillance qui vient du cœur, c'est-à-dire un acte de soutien vraiment choisi, un cadeau. Alors, cette collecte pour l'Église de Macédoine, c'est important que les Corinthiens la fassent avant l'arrivée de Paul. Sinon, elle ne pourra pas être une vraie libéralité, comme un vrai cadeau de leur part. Parce que s'ils attendent que Paul soit là pour faire cette collecte, il y aura un peu sur eux comme une pression. Et de leur part, ce don, ça ne pourra pas être un don vraiment libre, comme une libéralité, justement. D'autant plus que peut-être... des membres de l'église de Macédoine vont accompagner Paul quand il va venir. Juste avant notre texte, dans le verset d'avant, Paul justement évoque cette possibilité. Et puis maintenant, regardez. Paul dit « comme une libéralité et non comme un acte d'avarice ». Or, c'est intéressant ce mot « acte d'avarice ». En grec, ça veut dire « avoir plus que les autres, obtenir une plus grande part du gâteau. En fait, Paul veut dire que ce don financier, ça soit de votre part vraiment un cadeau et pas seulement une espèce de versement obligé que vous feriez juste pour ne pas perdre la face. C'est-à-dire, Paul nous montre ici quelque chose d'important. Il y a deux manières de faire une offrande au Seigneur. Une libéralité ou un acte d'avarice. Et ce qui fait la différence entre les deux, ce n'est pas le montant que nous donnons, c'est comment nous donnons. Mais là, allons un peu plus loin. Au fond, Le point important, c'est est-ce que nous donnons par obligation? En fait, un petit peu pour nous-mêmes quand même. Ou bien alors, deux, est-ce que nous donnons par amour pour l'autre? En fait, en suivant notre consécration au Seigneur. Parce que quand nous donnons par amour pour les autres, eh bien, nous consolidons quelque chose dans notre vie spirituelle. D'abord, nous consolidons ainsi notre relation avec le Seigneur. Et puis ensuite, nous consolidons également nos relations avec nos frères et sœurs. Et ça, ça fait que les dons que nous faisons, c'est non seulement un témoignage de notre foi, c'est aussi une sorte de ciment dans l'Église. Alors dans ce verset 5, Paul nous donne, si je puis dire, un premier axe qui devrait orienter notre soutien financier dans l'Église. Je veux dire dans l'Église avec grand E. Hein? Nos vraies offrandes, notre vraie offrande dans l'Église et devant le Seigneur, ça ne devrait pas être un don qu'on fait par obligation, ça doit être un cadeau qui vient du cœur. Un cadeau non seulement en direction de Dieu, mais aussi en direction des frères et sœurs. Et là, en fait, c'est un acte d'amour, un acte d'agapé en direction de celui qui en a besoin. Alors, dans notre vie concrète de foi, notre vraie offrande, c'est un acte de témoignage. Envers celui qui va la recevoir, même si on le fait en secret. Et puis d'un autre côté, bon, c'est un acte tout simple de nous, mais c'est aussi un ciment dans l'Église. Alors maintenant, intéressant, dans cette économie d'actes d'offrande, si je puis dire, eh ben, nous ne sommes pas les seuls à être actifs. Il y a notre part, et il y a aussi la part de Dieu. Regardez, s'il vous plaît, le verset 6. Je lis. « En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. » Ici, nous sommes celui qui sème, hein, peu ou en abondance. Et le Seigneur, eh bien, c'est lui qui nous fait moissonner, peu ou en abondance. Du coup, il y a ici une promesse pour nous. Hein? Si nous semons en abondance, eh bien, nous récolterons en abondance les bénédictions du Seigneur. Ça, on ne pourra pas le calculer. On ne pourra pas non plus vraiment le mesurer. N'empêche, on ne sait pas comment ça arrive, mais ça arrive quand même. Et si on regarde en arrière de nos vies, on voit que c'est quand même ce qui se passe. Alors ça, ce retour de bénédiction, eh bien, c'est la part de Dieu. Et puis notre part à nous. Eh bien, regardons le verset 7. Je lis, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Très intéressant. On s'attendrait normalement à ce qu'ici Paul dise, alors que chacun donne en abondance. Hein? Ça serait pile dans la ligne de ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Le mot grec, traduit ici par résolu, c'est un verbe qui signifie choisir à l'avance. Alors du coup, ici, Paul nous donne un deuxième axe qui devrait orienter notre offrande. Notre vraie offrande devant le Seigneur, ça doit être un acte choisi, librement. D'ailleurs, regardez, Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors l'idéal, c'est qu'on puisse réfléchir à l'avance, combien on va donner. Parce que c'est ça qui fait qu'on peut donner vraiment sans pression et avec joie. Et puis dans l'Église, notre offrande, ça doit être un cadeau qui vient du cœur et pour les autres. C'est ça qui en fait un ciment dans l'Église. Et là, il me semble intéressant d'ouvrir une parenthèse pour parler de la dîme. Hein? Ça, c'était une règle fondamentale de l'Ancien Testament. Je lis dans le Lévitique. « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une offrande consacrée à l'Éternel. Ça, c'est Lévitique 27, le verset 30. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, donner à Dieu la dixième partie de ses revenus, c'est une règle que le Seigneur avait fixée. Une obligation qu'on devait respecter pour être juste devant Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas le cas. Dans l'Évangile, vous savez, dans l'Évangile, Jésus n'utilise que deux fois le mot dîme. Et ça, c'est pour parler de ce que font les pharisiens. Et puis l'apôtre Paul, lui, il n'utilise jamais le mot dîme. Pourtant, au cours de ses voyages, Paul a organisé des collectes. Hein? Principalement, il a fait une grande collecte pour l'église de Jérusalem. Et dans ses lettres, il en parle. Et il parle des offrandes, de cet argent que nous donnons au Seigneur. Et en plus, dans les églises auxquelles Paul écrit, il y a beaucoup d'anciens juifs qui, eux, connaissent tout à fait la dîme. Et pourtant, Paul n'utilise jamais le mot dîme. Tout ça pour dire que dans la nouvelle alliance où nous sommes maintenant, devant Dieu, il n'y a pas de dîme obligatoire. Cependant, regardons bien ce que Paul dit ici. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Et ça, vous êtes d'accord? Ça peut aussi être plus qu'un dixième du revenu. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus donne une fois un exemple d'offrande quand même. Il y avait des riches qui mettaient leur offrande dans le tronc, dans le temple. Et puis aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Et voici ce que Jésus dit. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça, c'est dans Luc 21, au début. Alors, ici, il y a un appel pour nous. D'abord, quand nous décidons de donner une partie de nos biens au Seigneur, nous faisons juste. Mais le mieux, c'est d'y réfléchir à l'avance, tout seul, à l'intérieur de nous, hein, du moins autant que possible. Maintenant, ce que nous donnons au Seigneur, ça peut être beaucoup de choses, pas seulement de l'argent. On peut, par exemple, aussi lui donner du temps. Mais combien? Hein? Là aussi, il nous faut le déterminer nous-mêmes, le fixer nous-mêmes. Il n'y a rien d'obligatoire. N'empêche, il y a une bénédiction du Seigneur en rapport à ce que nous lui donnons. En fait, il y a là entre le Seigneur et nous, un peu comme une espèce de jeu de relation et de reconnaissance réciproque. Un jeu de confiance, on pourrait dire. Écoutez le verset 8. Je lis. « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » À vous combler de toutes sortes de grâces. Ça, c'est la part du Seigneur. À nous de faire notre part. Hein? À nous d'abord de reconnaître les grâces de Dieu et le remercier. Et puis à nous ensuite de recevoir ces grâces et de les utiliser pour satisfaire à nos besoins. Et à nous, finalement, d'accomplir avec ce qui nous reste toute œuvre bonne, comme ici dans ce verset. Ça veut dire, en deux mots, utiliser ce que Dieu nous donne avec une certaine mesure et profiter du reste pour faire le bien autour de nous. Tout ça, c'est notre responsabilité dans la gestion des biens que Dieu met à notre disposition. Écoutez justement, le verset 9, je lis, « Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Très intéressant. « Selon qu'il est écrit. Hein, » c'est-à-dire comme ce qui est écrit, suivant le modèle. Autrement dit, quand nous entrons dans ce jeu de confiance dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien là, nous prenons part à l'œuvre de Dieu lui-même. Hein? C'est Dieu lui-même, à travers nous, comme dans ce verset, qui répand ses bienfaits et donne à ceux qui sont dans le besoin. Et puis ensuite, nous avons ici un peu une définition de ce que le Seigneur attend de nous. Bien sûr, ces œuvres bonnes dont on parlait au verset précédent, elles signifient d'abord notre soutien à nos frères et sœurs en Christ, dans l'Église. D'ailleurs, ces indigents dont on parle ici font effectivement référence d'abord à ceux qui sont en besoin dans le peuple de Dieu. Mais finalement, comme Dieu lui-même répand sa grâce générale sur ceux qui ne croient pas encore en lui, dans l'attente de pouvoir les amener à lui, eh bien, de même pour nous. Hein? Le Seigneur nous demande d'étendre notre soutien direct et concret à ceux qui en ont besoin autour de nous, dans l'Église avant tout, mais aussi envers les autres. Hein, dans un élan de témoignage. Ça peut être nos voisins, nos collègues, les gens qu'on rencontre. Et là, nous parlons toujours de ce jeu de confiance où le Seigneur fait passer son œuvre à travers nous. Écoutez justement le verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Donc c'est bien ça, n'est-ce pas? Ici, nous sommes le semeur. Et le Seigneur, c'est celui qui multiplie la semence. Et c'est fort. Ici, en grec, le verbe multiplier veut dire fournir de plus en plus. Autrement dit, sur le plan de mes biens matériels, le Seigneur me donne amplement de quoi accomplir l'œuvre qu'il veut faire passer à travers moi en direction des autres. Alors quand je fais un don au Seigneur, que ça soit dans l'église ou pas, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, le Seigneur me donne, à travers mes libéralités, de quoi participer aux œuvres qu'il veut accomplir à travers moi. Et devant le Seigneur, eh bien, ces œuvres-là, elles vont porter du fruit. C'est ça, le fruit de votre justice. C'est vrai, la plupart du temps, on ne connaît pas les fruits de nos que portent nos engagements d'obéissance devant Dieu. Et c'est tant mieux. Mais il y en a. Hein? En donnant à ceux qui sont dans le besoin, nous suivons l'exemple que Dieu lui-même a donné. Et là, nous sommes pile dans la ligne de cette justice de Dieu qui subsiste à jamais. Vous vous souvenez, c'est dans le verset 9. De plus, en faisant ça, nous créons des liens qui pourraient aussi devenir des occasions de témoignage. Or ça, c'est nos actes en dehors de l'Église. Et puis maintenant, à l'intérieur de l'Église. Eh bien, écoutez le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu, dans l'Église, donc, chez ceux qui vont recevoir vos dons. En fait, les actes de bienveillance pour les autres que nous faisons avec nos biens matériels dans l'Église, eh bien, ces actes sont déjà à la base des œuvres pour le Seigneur, parce qu'ils vont amener d'autres à exprimer leur reconnaissance envers lui. Et ça sera pour eux un ferment de vie spirituelle. Alors, je conclue. Ce texte nous parle de nos offrandes. Autrement dit, de cette partie de nos biens matériels que nous retournons au Seigneur. D'une part, mon offrande, elle est vraie et juste, si elle est un cadeau qui vient du cœur. Ça veut dire, c'est important qu'elle soit un acte librement choisi à l'intérieur de moi. Et non pas juste quelque chose que je fais par imitation ou bien sous une pression externe. Hein? Et du coup, pour pouvoir vraiment choisir ce qu'on donne, l'idéal c'est de pouvoir fixer à l'avance combien je donne et à qui. Et puis d'autre part, mon offrande, elle est vraie et juste si elle entre dans ce jeu de confiance entre le Seigneur et moi dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, d'un côté, le Seigneur me donne de quoi subvenir à mes besoins sur le chemin qui déroule lui-même devant moi. Et de l'autre côté, moi, je puise dans ce qui me reste pour accomplir ces œuvres bonnes et ces libéralités que le Seigneur attend de moi. Maintenant, devant le Seigneur, mon offrande n'est pas une obligation chiffrée. Cependant, le Seigneur nous fait une promesse. Si nous semons en abondance, nous recevons des bénédictions en abondance. Et puis, dernier point, quand nous faisons un don au Seigneur, eh bien, nous faisons directement une œuvre pour lui. Hein? Déjà, puisque par là, nous amenons d'autres à le louer, ou bien au moins, nous pouvons amener d'autres à le rechercher. Alors, pour dire tout ça en deux lignes, mon offrande, elle est juste devant le Seigneur si je la fais dans une réponse de reconnaissance envers lui, librement et avec joie. Amen.